qu'on va encore avoir un bon moment ce soir aussi. Amen. Dans la parole de Dieu. Vous avez vos Bibles avec vous? Montrez-moi votre Bible. Dites ceci, ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Ce soir, je recevrai la semence incorruptible de la parole de Dieu qui entre dans mon cœur, porte du fruit, change ma vie et je ne serai plus jamais le même. Hallelujah! Hallelujah! Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles de nouveau dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Et on va se lever parce qu'au lieu de lire la Bible, on va chanter la Bible. Alléluia! Et on va se lever de nouveau. Jésus raconte une histoire parce que pour bien faire comprendre la différence entre ceux qui écoutent sa parole et l'obéissent et ceux qui écoutent la parole et le désobéissent. Amen. Et il raconte l'histoire. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Un peu plus vite. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Et puis Jésus continue, dit, par contre, le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison et la tempête arriva. Le vent, souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison résiste. Bravo, vous chantez très, très, très bien. Alléluia. Oh, c'est formidable, non? J'ai jamais lu la parole avec autant de joie. Non, j'ai toujours la joie quand je lis la parole de Dieu. Amen. Remarquons de nouveau que dans cette histoire que nous avons chantée, mais nous avons vraiment chanté ce que la Bible dit, hein? Donc le fou sur le sable et le sage sur le roc. Amen. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Que Jésus dit que celui qui le désobéit, il l'appelle fou. Y a-t-il des fous ici ce soir? J'espère que non. Mais le fou n'est pas celui qui ne sait pas ce qu'il fait. Le fou sait très bien ce qu'il fait dans la parole de Dieu. Il sait très bien qu'il désobéit le Seigneur. Amen. Dans Proverbes au chapitre 14, verset 12, il est dit ceci. Il est dit, « Telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la vie ou la, qui, de la mort. La voie de la mort. Telle voie paraît sage à l'homme, droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Voyez-vous, les choses ne sont pas toujours telles qu'elles semblent être. Amen. Les choses ne sont pas toujours telles qu'elles semblent être. Un jour, il y a un homme qui roule avec sa Rolls-Royce et il y a la neige, comme au Canada. Et il tourne, et en tournant, il boum contre le poteau. Il dit, oh! La voiture est toute cassée, il dit, oh! Un mois de salaire. Puis il y a quelqu'un d'autre qui roule aussi avec sa Porsche. Et il roule, et au même tournant, il boum, de nouveau le poteau dit, oh, 2 mois de salaire. Sa voiture voulait pour lui. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui vient avec une voiture toute insignifiante. Une des toutes petites voitures qui existent, je ne sais pas laquelle plus insignifiante qu'il y a, en France et en Belgique et en Europe, on dit la 2 chevaux. Vous savez, la Citroën 2 chevaux. Vous connaissez, hein? Et il roule avec sa petite 2 chevaux, et le même tournant, et boum, sur le poteau dit, oh, 2 ans de salaire. Et celui avec la Rolls-Royce dit à l'autre à la porte, je dis, mais il doit être fou pour acheter une voiture qui lui coûte 2 ans de salaire. Parce qu'il pensait que ça coûtait 2 ans de salaire pour le milliardaire. Pour quelqu'un, pour le milliardaire, la Rolls, c'était 1 mois de salaire. Pour celui avec la Porsche, c'était 2 mois de salaire. Mais pour l'autre, c'est peut-être la voiture la plus insignifiante, mais pour lui, c'était 2 ans de salaire. Hello? Tout ce qu'on voit ne paraît pas toujours ce que c'est. Amen. Alléluia. Et je crois que c'est important pour nous qu'on se rende compte de cela. Regardez avec moi dans 1 Samuel chapitre 15. À partir du verset 12. Samuel Samuel est parti en guerre, il est allé attaquer Amalek. Et voici ce que, et il prit vivant Agag, roi d'Amalek d'ailleurs. Et voici ce que dit la parole de Dieu. Regardez le verset 10 déjà. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire, « Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné en passant plus loin et il est descendu à Gilgal. » Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Mais qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saül, « Arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Et Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Amen. Amen. Alléluia. Voyez-vous, Saül est là. Dieu lui a demandé de faire quelque chose de bien clair. Il lui a dit, voilà, quand tu vas à la guerre, voici ce que je veux que tu fasses. Il faut que toutes les personnes soient exterminées. Bêtes compris. Tout. Et quand Samuel arrive, il dit, j'ai fait ce que Dieu a demandé. Vraiment ? Et puis, on vient de le lire. En fait, il a préservé le roi Agag, le roi des Amalécites, et ensuite, on a voulu faire un cortège, un triomphe, comme on faisait plus tard à Rome. D'ailleurs, la Bible dit que Saül s'est fait un monument pour lui. Il s'est érigé un monument. L'air de dire, regardez, ici, j'ai vaincu les Amalécites. Alléluia. Et ensuite, il garde une partie du bétail, des bœufs, des brebis, etc. et tout, pour l'offrir en sacrifice. Et Samuel lui dit ceci, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Voyez-vous, beaucoup de choses peuvent paraître justes. Mais ce qui paraît juste n'est pas toujours juste. Il y a des tas de choses qui paraissent comme cela, mais ce que l'on voit ou ce que l'on entend n'est pas toujours la réalité. Un jour, une dame vient d'avoir 40 ans pour sa fête. Son mari lui dit, « Qu'est-ce que tu aimerais pour ta fête? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?»« Oh, si je retournais à 10 !» Ce n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd. Samedi qui vient, il fait une grande partie. Et il s'arrange que dans la partie, c'est comme quand elle avait 10 ans. Les feuilletons, les petites bandes dessinées quand elle avait 10 ans, les petites poupées comme elle avait 10 ans, les petits jeux. Il s'est arrangé avec ses copains et ses copines pour faire des jeux comme quand on faisait quand elle avait 10 ans. Et au bout de la soirée, il lui demande après, « Alors chérie, qu'est-ce que tu as fait de... Qu'est-ce que ça t'a ressenti d'avoir 10 ans ?» Dit chouchou, quand je disais 10, c'était pas là, c'était la taille. Amen. Voyez-vous, on pense voir quelque chose, on pense entendre quelque chose, mais on n'a pas vu la bonne chose et on n'a pas entendu la bonne chose. Saül a fait croire qu'il avait fait tout selon la parole de Dieu. Je pense même que Saül était convaincu que ce qu'il avait fait, la petite désobéissance qu'il avait fait, n'était pas si grave. De toute façon, c'est pour la bonne cause. C'est pour offrir à Dieu. Mais voyez-vous, Dieu, hein, quand il demande quelque chose, il demande notre obéissance. Le fou, c'est celui qui entend la parole de Dieu et qui n'agit pas selon la parole de Dieu. N'est-ce pas vrai ? Hein, le fou sur le sable, qui bâtit sa maison sur le sable, c'est celui qui ne fait pas la parole de Dieu. La Bible dit ceci, dans 2 Jean, chapitre 1, verset 9. « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » 2 Jean 1, 9. « Quiconque va plus loin et n'a pas la doctrine de Dieu, de Christ, n'a pas Dieu. » En d'autres mots, il y a des paramètres que nous ne pouvons pas franchir. Amen. Nous devons rester avec Dieu et nous devons rester avec la parole de Dieu. J'aime beaucoup ce que le frère Hagin disait toujours. Il disait, moi je suis un gars collé à la parole de Dieu. Si ce que vous me dites n'est pas dans la parole de Dieu, je ne veux pas l'entendre. Alléluia. Et il racontait de personnes qui venaient avec toutes sortes de révélations, mais qui n'étaient pas prouvables par la parole de Dieu. Et il disait, c'est pas prouvable par la parole de Dieu, je ne veux pas l'entendre. Si vous avez eu l'occasion de lire son livre « Je crois dans les visions », vous verrez qu'il a même l'audace, le courage, le cran, quand Jésus lui parle, de dire « Attends Jésus, tu me dis des choses, mais il faut que tu me montres dans la parole, parce que si ce n'est pas dans la parole, je ne croirai pas. » Ah ! Alléluia ! L'apôtre Paul dit « Si même un ange venait et vous enseignait un évangile différent du mien, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème, n'est-ce pas vrai ? Quand on parle de l'obéissance, nous avons dit que l'obéissance rapporte, mais nous avons aussi dit que la désobéissance apporte ses tragédies, n'est-ce pas vrai ? L'obéissance rapporte et la désobéissance apporte ses tragédies. Et donc devant Saül, Samuel triste, parce que Samuel aimait beaucoup Saül, et Samuel va lui dire l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéir Dieu vaut mieux que ce que tu aurais pu faire pour Dieu. Amen. Non, quelquefois, je me pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours ? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Comment je peux comprendre dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire l'obéissance vaut mieux que le sacrifice ? Parce que quelque part, on voit que le sacrifice est quelque chose de bon. Amen. Dieu veut le sacrifice, il veut même des sacrifices de notre vie. Mais au-dessus de toute autre chose, il désire notre obéissance. Et très souvent, le sacrifice que l'on peut faire, ou les choses que l'on peut faire pour Dieu, si elles sont faites dans la désobéissance, elles ne sont pas toujours ce que l'on pense qu'elles soient. Amen. La première chose qu'on peut dire, c'est ceci, c'est que mieux vaut obéir à Dieu que de lui offrir quelque chose pour lui plaire. Amen. Dans ce cas-ci, c'est lui offrir un sacrifice. Mais mieux vaut obéir à Dieu que de faire des choses pour lui plaire. Saül, ici, faisait tout pour plaire à Dieu, mais quelque part, il s'est arrangé pour plaire à Dieu, mais aussi aux hommes. La Bible dit « mais le peuple ». Voyez-vous ? Mais le peuple. Voyez-vous, beaucoup de gens autour de nous veulent que nous fassions des choses, peut-être, nous poussent à faire des choses qui peut-être en elles-mêmes peuvent être bonnes, mais qui ne sont pas la voie de Dieu pour nous maintenant. Amen. Moi, je me souviens, il y a de nombreuses années, alors que j'étais pasteur à Bruxelles, et j'étais l'assistant du pasteur, nous étions deux pasteurs, mais il était le pasteur principal, et j'étais son assistant. Et un jeune homme vient vers moi, un jeune homme qui était très célèbre dans la francophonie pour son ministère de louanges, et qui avait, c'est un grand ami à moi, mais il avait cette tendance à toujours aller trop vite. Voyez-vous, la promotion vient de l'Éternel, pas de soi. Amen. Et un jour, il vient vers moi et il me dit, Donato, mais qu'est-ce que tu fais toujours dans ton église à Bruxelles? Sors de ton église et montre ce que tu sais faire. Hello? Heureusement que c'est entré dans une oreille, que c'est sorti de l'autre. Imaginez-vous que j'avais écouté. Eh bien, aujourd'hui, je ne serais pas où je suis. Ni à Lugano et ni ici aujourd'hui au Canada à prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce que j'aurais essayé de faire quelque chose de bien pour moi peut-être et pour les autres, mais pas la parole de Dieu, pas obéissance à la parole de Dieu. Parce que Dieu m'avait dit, il faut que tu travailles dans cette église jusqu'à ce que tu dis d'arrêter, jusqu'à ce que c'est moi qui te dis d'arrêter. Amen. Et très souvent, les personnes viennent vers nous et viennent nous demander et nous dire, fais ceci, mais non, tu devrais faire cela. Non, on ne va pas faire ce qu'on pense. Peut-être ça paraît bon, peut-être ça paraît juste. Quelquefois, je suis un petit peu étonné quand je vois quelqu'un faire quelque chose de neuf, ou bien, entre guillemets, sortir de là où il était, et les gens disent, ah, c'est bien, ça va être bon pour lui. Ça va être bon pour lui, mais pas spécialement bon pour Dieu. Peut-être que pour sa carrière, ce sera bon, mais je ne sais pas pour vous, mais le jour où j'ai entré dans le service de Dieu, je ne suis jamais entré dans une carrière. Je suis entré dans un service. Alléluia. Où la volonté de Dieu et les désirs de Dieu doivent être au-delà de mes propres désirs personnels. Hello? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dis à votre voisin, il parle de toi. Mais voyez-vous, il y a tellement de choses qu'on fait qui semblent être bonnes, mais très souvent, c'est plus pour faire plaisir à Dieu que pour obéir à Dieu. Quand j'étais jeune étudiant à l'école biblique, je me souviens de ça, nous avions un frère d'Afrique, un homme très intéressant. Il était plus âgé que nous, et tous les mercredis matins, il avait la corvée à 5 heures du matin pour faire le petit déjeuner. Et il s'arrangeait toujours que le mardi soir, il priait toute la nuit. Et les gens disaient, regarde cet homme de prière, toute la nuit il priait. Et à 5 heures du matin, il dormait. Au lieu de faire sa corvée. Non seulement il était allé dormir, chaque mercredi, hein, non seulement il allait dormir, mais il se levait vers midi après. Chez nous, on appelle ça fainéant. Hein? Certains vont dire que c'est spirituel, non, c'est fainéant. Amen. Mais ce n'est pas tout. Le matin, en se levant vers midi, il est encore dans son lit, et il y a son, après le déjeuner, il y a son copain de chambre qui arrive, un Anglais, et il arrive dans sa chambre probablement pour prendre ses autres cahiers pour aller étudier de nouveau. Il dit, mais il est où mon déjeuner? Comment, il est où ton déjeuner? Mais oui, mais tu vas le chercher. Mais c'est pas bien, j'ai prié toute la nuit, c'est toi qui dois m'apporter le déjeuner. Et vous aurez dû voir la haine sur son visage. Devant tout le monde, très spirituel, il priait. Mais comme par hasard, il priait toujours quand il devait faire sa corvée. Allô? Il y a des choses qui sont justes à faire, mais il y a des choses où il faut faire attention quand on le fait et pourquoi on le fait. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup montrer ce qu'elles peuvent faire, mais qui n'aiment pas servir et surtout pas servir en public. Oh, pasteur, je ferai tout ce que vous me demandez, mais pas en public, s'il vous plaît. Vous vous imaginez? Si je fais ça en public, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Si, par exemple, je dois aller chercher la poste en public devant les gens, ils vont me dire que je me suis abaissé. Oh! Vous savez, c'est quoi l'humilité? Le mot humilité vient du mot humus. Et vous savez, c'est quoi le humus en latin ? C'est le sol, c'est la terre. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se mettre sur la terre. Alléluia ! Amen ! Et qui se mélange avec les poussières de la terre. Hein, et qui dit pas, « Ah, s'il vous plaît, il y a la terre partout ! Aidez-moi !» Ah, alléluia ! Non, c'est important de comprendre pour nous. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut beaucoup mieux que le fait de faire plaisir à Dieu. « Oh, j'ai prié toute la nuit !» Oui, tu as prié toute la nuit, mais tu as embêté ton monde toute la journée. Amen. Tu étais un ange toute la nuit et un démon toute la journée. Avec un sale caractère. Amen. Regardez un petit peu une autre histoire. Je vais vous montrer une deuxième chose que ça veut dire. Mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Vous rappelez-vous de deux histoires dans l'Ancien Testament avec Moïse ? Dans Exode chapitre 17, Dieu dit à Moïse, alors que le peuple réclame de l'eau dans le désert, il dit « Vois ce rocher » et frappe sur le rocher. Vous vous rappelez de cette histoire ? Et quand il frappe sur le rocher, qu'est-ce qui sort ? De l'eau, n'est-ce pas ? Et puis, quelques temps plus tard, c'est dans Nombre cette fois-ci, Nombre au chapitre 20, pardon, les versets 8 à 12, on voit que Dieu, de nouveau le peuple, rouspète, demande de l'eau, et Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Vous vous rappelez de cela ? D'un côté, il dit, frappe au rocher, et de l'autre côté, il dit, parle au rocher. Vous vous rappelez de cette histoire ? Et qu'est-ce que va faire Moïse ? Il va frapper le rocher, n'est-ce pas vrai ? Et la Bible dit ceci, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, cette génération n'entrera pas dans la terre promise. » C'est intéressant, parce que Dieu dit, « Parce que vous n'avez pas cru en moi. » Écoutez-moi, croire, c'est obéir. Et obéir, c'est croire. Alléluia ! Obéir, c'est croire à la parole de Dieu. C'est l'acte qui met en marche la foi dans la parole de Dieu. Amen. Mais pourquoi Dieu a dit la première fois, « Frappe sur le rocher », et la deuxième fois, parle au rocher. Amen. Non. Quand vous aurez l'occasion d'aller une fois avec vos pasteurs, si eux le veulent un jour, aller en Israël et peut-être même en Égypte, dans le Sinaï, vous allez découvrir quelque chose. Le désert de Sinaï est rempli d'eau en dessous. En hiver, il pleut beaucoup, beaucoup. Il y a tellement d'eau que l'eau jaillit de rochers. Mais la terre est perméable et tout retombe en dessous, dans le sous-sol. Vous voyez ce que je veux en dire ? Et par les rochers, il y a des tas de fentes qui se font et l'eau jaillit par ces fentes. Et quiconque vit dans le désert sait très bien retrouver ces rochers avec ces fentes. Et qu'est-ce qui se passe pendant l'été, à partir du printemps, une fois que la saison des pluies est partie, sur ces fentes, des fois elles sont petites, des fois elles sont plus grosses, se produit une sorte de produit chimique, une sorte de terre qui va refermer les fentes. Et seul un bédouin, seul quelqu'un qui vit dans le désert, seul quelqu'un qui, comme Moïse, a vécu pendant 40 ans dans le désert, sait très bien reconnaître où il y a de l'eau et où il n'y en a pas. Amen. Et qu'est-ce que faisaient souvent les gens ? Ils frappaient sur le rocher pour que cette fente se ouvre de nouveau et que de l'eau jaillisse. Mais quand Dieu dit à Moïse, « Moïse, frappe sur le rocher », à votre avis, pourquoi il lui a dit ? Non, parce qu'il n'y avait pas de fente. Il a dû obéir. Enfin, je pense en tout cas, d'après ce que moi j'ai compris. Parce que s'il y avait la fente, il savait très bien qu'il y avait à avoir de l'eau. Et donc, il va obéir Dieu et il frappe sur le rocher. Par la foi. Et remarquez que la première fois quand il frappe sur le rocher, Dieu ne l'a pas réprimandé, il a obéi au Seigneur. Et l'eau est venue. Amen. C'était un miracle extraordinaire. Il n'y avait pas de fente. Mais la deuxième fois, quand Dieu lui dit, parle au rocher, pourquoi a-t-il frappé? Probablement parce qu'il avait reconnu une fente. Il avait reconnu ces petites fentes qui se referment en été et pendant le printemps. Et il s'est dit, mais pourquoi je dois parler? Je peux frapper, je connais très bien le système. Et il va frapper sur le rocher. Ou bien, il n'a pas reconnu la fente de nouveau, mais au lieu de frapper, au lieu de parler, il a frappé. Écoutez ceci. La leçon que Moïse a apprise, malheureusement, au prix du fait qu'il n'est pas entré dans le pays promis, est celle-ci. Est-ce que tu vas faire les choses selon la voix de Dieu ou selon la voix des hommes? God's way or my way? La voix de Dieu ou la voix des hommes? Amen. Dieu dit à Moïse, Moïse, écoutez, c'est important pour nous, parce que c'est tout un peuple qui n'est pas entré dans le pays promis. Parce que pour entrer et prendre possession du pays promis, on ne pouvait pas aller avec la voix des hommes. Il fallait aller dans la voix de Dieu et dans la voie de l'obéissance. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'on va faire selon nos manières ou selon les manières de Dieu? Est-ce qu'on va les faire comme on aime la faire ou comme Dieu aime le faire? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Et faire ce que Dieu nous demande de faire, même si à notre tête ça ne paraît pas juste, on le fait quand même. Et plutôt que de faire ce que les autres veulent faire et ce que nous pensons être juste à faire, allons-nous faire selon les voies des hommes ou allons-nous suivre la voie de Dieu? Et Dieu dit, parce que vous n'avez pas cru. Parce que vous n'avez pas cru. Écoutez, c'est important ça. Parce que suivre la voie des hommes, ce n'est pas croire dans la parole de Dieu. Alléluia. Suivre la voie des hommes, ce n'est pas suivre la voie de Dieu. Rappelez-vous dans Luc au chapitre 6, Dieu dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je suis? Je crois que Dieu est en train de relever une génération de personnes qui vont être vendues à Dieu. Alléluia. Et qui vont être obéissantes au Seigneur. Cette même génération qui est entrée avec Josué dans le pays de la promesse. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Pendant 40 ans, ils sont restés à errer dans le désert. Et un jour, ils arrivent dans la terre promise. Et dès la première bataille, ils gagnent la bataille de Jéricho. Vous vous rappelez cela? Et puis ils avancent. Et puis tout d'un coup, ça ne marche pas. Ils ont la défaite. Et puis, ils apprennent pourquoi il y a la défaite. Et regardez ce qui se passe. Le peuple dit à Josué, donne-nous Akan et nous allons le tuer. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils disent, Josué, on en a assez de vivre dans la mentalité du désert. On a assez de vivre et de retourner en arrière. Maintenant, c'est nous qui allons nous en occuper. Alléluia. Parce qu'on ne veut pas aller selon les voies des hommes, on veut aller avec les voies de Dieu. Alléluia. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je fais? Amen. Regardez un petit peu avec moi dans Actes des Apôtres. Je voudrais vous rappeler une petite histoire qui nous montre, l'une nous a montré la tragédie de la désobéissance. Regardez ici les bienfaits de l'obéissance. Acte 16, à partir du verset 6. Alléluia. Paul dit ceci. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Waouh, regardez ça. Ils veulent faire deux choses et à chaque fois, ils ont été empêchés. Par l'Esprit de Dieu. Waouh! Attention! Empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice? Attends, pasteur Donato, mais annoncer la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Et vous avez raison que c'est une bonne chose. Où que ce soit, c'est toujours une bonne chose. Mais nous devons connaître aussi le plan de Dieu. Amen. Et dans la vie de Paul, Paul voulait aller dans une telle direction, mais Dieu lui dit non, ce n'est pas cette direction. Puis il voulait encore aller dans une autre direction, et Dieu dit non, ce n'est pas cette direction. Amen. Quelquefois, on veut faire quelque chose, mais si Dieu nous dit non, écoutons-le, il a un plan meilleur. Alléluia. Et remarquez que Paul dit ici, il ne dit pas que c'est Satan qui l'a arrêté. Dans d'autres endroits, Satan va l'empêcher d'aller quelque part. Mais dans ce cas-ci, Paul a bien et bien compris que c'est Dieu qui lui a dit. Et Dieu, le Saint-Esprit, qui l'a empêché. Remarquez, je ne sais pas si vous avez une image de l'apôtre Paul, mais peut-être qu'une des images les plus fortes de l'apôtre Paul, on peut dire, l'apôtre Paul, c'est un fonceur. Amen. Un bulldozer, partout il va, il prêche l'évangile. Ah, je dois aller là, je prêche l'évangile. Et puis je vais par là, à Julie, non, à Louise, et je prêche l'évangile. L'attaquer. Et puis je vais là, je prêche l'évangile. Et je vais là, je prêche l'évangile. Je vais là, et puis Dieu dit non. Comment non. Alors je vais là, non. Non, deux fois. Paul est un fonceur. Ça devait être dur pour lui d'accepter non de la part de Dieu. Oh ! Et il n'y a pas quelqu'un d'autre là-haut ? C'est quand même une bonne chose. Ils ont besoin de Jésus. Et là-bas aussi. Et Dieu dit non. Mais Paul a aussi appris une chose. C'est que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Non, comment s'appelait Paul ? Avant, Saul. À qui ça fait penser ? D'où vient le mot Saul, à votre avis ? C'est le mot Saül ? Allô ? Imaginez-vous qu'il a compris ce qui s'est passé à l'autre homonyme. J'ai pas intérêt à désobéir comme mon homonyme, hein ? Allô ? Et il a appris à obéir et obéir. Et obéir. Regardez un petit peu ce qui se passe. Oh, gloire à Dieu. Mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Le verset 8, acte 16, 8. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies, l'une d'elles nommée Lydie, marchande de pourpre, etc., etc. Et vous connaissez l'histoire. Paul rencontre Lydie, la main au Seigneur, la première convertie de l'Europe, mon Europe à moi, alléluia. Et Dieu a ouvert la porte à toute l'Europe. À travers cette femme. C'est intéressant d'ailleurs que dans son rêve, il n'a pas vu une femme, il a vu un homme. Imaginez-vous qu'il a une vision d'une femme, il aurait dit « Regarde-moi, Satan !» C'était un homme qui aime Dieu et qui veut rester droit avec Dieu, imaginez-vous, qui dit à tout le monde « J'ai vu une femme dans mon rêve !» La première chose que les autres auront dit, elle était belle ! Hello ! Heureusement que Dieu... Il n'a pas rencontré d'homme. Il n'est pas marqué, il a rencontré une femme. Écoutez-moi, je vous ai dit, la désobéissance apporte la tragédie, mais l'obéissance apporte la bénédiction. Alors, qui était Lydie ? Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail, à votre avis ? C'est marqué dans la Bible, je l'ai lu. Marchande de pourpre. Waouh ! Alors, quand vous êtes marchand de pourpre, quelle est votre clientèle, à votre avis ? Hein ? pas celui qui achète la 2 chevaux, hein, la petite Citroën, c'est celui qui achète la Rolls-Royce et la Porsche. C'est vrai ou c'est pas vrai? En fait, qui s'habillait de pourpre? La royauté, les princes, les gens de haute dignité, etc. Et tout. Cette femme était une commerçante, on aurait dit ça aujourd'hui en français, hein, une commerçante, mais pas une commerçante fauchée. Elle avait de l'argent. Non, est-ce que vous savez comment on fait de la pourpre? On fait de la pourpre avec une fibre que l'on trouve dans la mer. Quelle mer, à votre avis? C'est quoi la couleur de la pourpre? C'est rouge. OK? À votre avis, quelle mer? Comment? Vous pouvez vous donner un applaudissement, hein? Vous avez bien trouvé, amen. Alors, écoutez ça. La pourpre se fait avec une coquillage que l'on trouve dans la mer Rouge. Vous savez combien de coquillages il faut pour 1 cm3 de pourpre? Allô? À votre avis, combien de coquillages il faut pour 1 cm3? 5? 100? 50? Qui dit mieux? 10 000. Il faut 10 000 coquillages pour 1 cm3 de pourpre. Cette femme, non seulement était une grande commerçante, mais probablement qu'elle était une grande entrepreneuse et qu'elle avait des milliers de nageurs qui allaient dans le fond de la mer Rouge, qui prenaient 1 ou 2 coquillages selon ce qu'ils pouvaient et remontaient. Et il en fallait 10 000 de coquillages pour 1 cm3 de pourpre. Vous savez ce que ça me fait dire à moi? Que cette femme n'était pas une millionnaire de l'époque. C'était une milliardaire de l'époque. Remarquez un petit peu qu'une fois que Paul va à Philippe et qu'il rencontre Lydie, vous ne trouvez plus jamais Paul fabriquer des tentes. Allez voir, depuis le moment où il a rencontré Lydie, vous ne voyez plus dans les Actes des Apôtres que Paul fabrique des tentes. Alors, je spécule un petit peu maintenant. Mais ce n'est pas compliqué de spéculer. Parce que quand l'Évangile entre dans le cœur de quelqu'un, la personne reçoit. Comme vous appelez ça ici dans l'Église, j'aime beaucoup d'ailleurs cette expression, des rois et des reines. Amen. Des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des entrepreneurs. Alléluia. Et je vous assure que quand l'Évangile entre dans notre cœur et est entré dans le cœur de Lydia, il n'y a aucune raison de croire, et de ne pas croire, pardon, ou il n'y a aucune raison de ne pas croire que Lydie est entrée dans un partenariat de donner et de recevoir avec l'apôtre Paul. Alléluia. Et que depuis ce jour-là, comme par hasard, c'est pas un hasard. Rappelez-vous, je vais aller en Asie. Ah! Je vais aller en Bithynie. Non! Va à Philippe. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'obéissance rapporte beaucoup, beaucoup et beaucoup. Alléluia. Et remarquez que non seulement cela, mais l'église de Philippe n'est pas une église pauvre. Si vous vous rappelez, quand Dieu parle, Paul écrit aux Philippiens, il dit « Vous étiez les premiers à entrer dans une relation de donner et de recevoir avec moi. » Hello ? Hello ? Et la chose extraordinaire, c'est ceci. Pourquoi je peux croire ça aussi ? L'apôtre Jésus nous dit ceci. Il dit qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau par le trou d'une église. Vous vous rappelez de cette histoire ? Et puis, Jésus qualifie un petit peu ce qu'il veut dire par riche. Il dit, il est plus difficile pour un riche qui se confie dans ses richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et j'ai toute chance de croire que Lydie ne se confiait pas dans ses richesses. Mais c'est une femme généreuse et qui a commencé à bénir l'œuvre et le ministère de Paul. Vous savez, Paul voyageait avec 120 personnes. C'est un petit peu la moyenne des gens qui étaient avec lui. D'ailleurs, dans ce récit, il est marqué « nous ». C'est Luc qui écrit. Luc était avec Paul. Alléluia. Il y avait à peu près 120 personnes sous son ministère. À l'époque, il faut le faire. Certains disent que Paul était un pauvre. Un pauvre ? Allez voir un petit peu dans Actes chapitre 27 et 26. Il y a, je crois que c'est 26. Il y a, une fois qu'il est allé voir le roi Agrippa, etc. Et tout, il y a Justus, ou Félix, je crois que c'est Félix, le gouverneur qui, la Bible dit, et il vient voir régulièrement Paul pour voir s'il pouvait lui soutirer de l'argent. Un jour, quelqu'un m'a dit, oui, Paul était un réfugié. Un réfugié millionnaire ! Depuis quand vous allez en prison essayer de soutirer l'argent à un réfugié ? Que je sache, sans aucun irrespect, manque de respect pour nos amis réfugiés, en général, ils sont réfugiés parce qu'ils ont besoin d'argent. Paul n'était pas un réfugié. Le jour où il a rencontré Lydie, parce qu'il a obéi à la voix de l'Éternel, depuis ce jour-là, il n'a plus été travaillé comme faiseur de tente. Pas qu'il ne le voulait pas, vous connaissez très bien l'histoire, il a dit lui-même, je l'ai fait par amour pour l'Éternel. Hey, mais si Dieu met devant toi un plateau d'argent, tu l'acceptes, oui ou non ? Hello ? Hein ? Stupido, stupita, stupirorum, hein ? Rappelez-vous que le faux, ce n'est pas celui qui obéit, c'est celui qui désobéit la parole de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, l'obéissance rapporte, elle rapporte et elle rapporte. Je trouve cette histoire de Paul et de Lydie et de l'église de Philippe une histoire extraordinaire. C'est la première église qui a rencontré Paul dans le partenariat de donner et de recevoir. Amen. Voyez-vous, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Veut aussi dire mieux vaut obéir à la parole de Dieu que de forger des subterfuges pour se convaincre ou pour convaincre Dieu. Je donne un exemple pour essayer de comprendre ça. Il y a de cela une quarantaine d'années, un peu plus peut-être. Voici qu'un marin tombe amoureux d'une fille. Il était chrétien, elle ne l'était pas. Et elle commence à, il commence à dire, oh là 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 Seigneur, je veux te demander si c'est ta volonté que je me marie avec elle. Alors moi en général, dans mon école à moi, on m'a toujours appris, mieux ne vaut pas se marier avec quelqu'un qui ne suit pas la parole de Dieu. Amen. Hein? Et si quelqu'un vient chez moi, en général, je déconseille le mariage entre un chrétien et un non-chrétien. Amen. Hein? On ne doit pas tomber dans le joug étranger, la Bible dit. Amen. Et certains disent, oui, mais je m'arrangerai pour qu'elle devienne chrétienne. Ça, c'est le problème de chaque personne qui croit qu'une fois qu'on va se marier, on va changer l'autre. C'est comme quelqu'un qui me dit « Oh, quand je me marierai, tout ira mieux. » Non, ça doit aller mieux avant. Parce que si ça ne va pas mieux avant, ça ira pire après. Hello ? On est d'accord avec ça ? Amen. Hein ? Et donc, on n'est pas là pour se changer l'un et l'autre. On est là pour marcher, de croître ensemble. Amen. Dans le mariage, c'est comme ça. Et donc, il y a des gens qui sont convaincus de cela. Écoute, si tu n'arrives pas à, entre guillemets, la convertir avant, tu auras du difficile à convertir après. Amen. Dis pas que les miracles ne peuvent pas se passer. On croit toujours dans le miracle, mais je crois beaucoup dans le miracle de la sagesse et du bon sens. Amen. Et d'ailleurs aussi, pasteur, on parlait encore de cela avec le pasteur cet après-midi, c'est pas uniquement se marier avec un chrétien qu'il faut faire ou avec une chrétienne, c'est se marier avec la bonne personne. Ça aussi, c'est du bon sens. Amen. Bon, soit. Et donc, il priait, Seigneur, je t'en prie, Seigneur, je l'aime tellement, dis-moi que c'est ta volonté. Mais voyez-vous, l'obéissance vaut mieux que de fabriquer des subterfuges pour essayer de se convaincre que c'est la bonne chose à faire. Il aurait déjà dû savoir dès le départ que ce n'était pas la volonté de Dieu. Hello ? C'est comme si quelqu'un dit, Seigneur, est-ce que je peux tuer cette personne ? Oh Seigneur, laisse-moi, dis-moi que je peux la tuer. Mais non, vous ne pouvez pas la tuer. Vous pouvez prier tant que vous voulez. Vous ne pouvez pas. La Bible dit, tu ne tueras point. Oh Seigneur, c'est ça qui est beau. Je veux le voler. Dis-moi que je peux le voler. Mais vous pouvez demander à Dieu tant que vous voulez. Il vous dira non. Et comme cet homme-là n'aimait pas la parole non, il a créé un subterfuge. Il était marin Et il était en pleine mer et il faisait sec comme tout, c'était en été. Et il a dit ceci, « Seigneur, voilà ce que je vais faire. Je vais mettre un grand drap dehors sur le pont. Si demain matin, quand je me lève, le drap est trempé et tout est sec par terre, ça veut dire que tu veux bien que je me marie avec elle. » Et le lendemain matin, le drap était tout mouillé. Et bien sûr, il s'est marié avec elle. Au bout de 2 ans, c'était la catastrophe et il s'est divorcé. Il ne comprenait pas, mais Seigneur, j'ai demandé ceci. Et il s'est dit à ce moment-là, j'aimerais bien savoir comment est-ce possible que ce drap était mouillé. Et il est retourné dans la cabine du capitaine et il a demandé à pouvoir ouvrir le livre de bord. Vous savez, dans le livre de bord, on écrit tous les incidents qui se passent. Et cette nuit-là, c'est écrit que 7 marins étaient tombés à l'eau et que quand on les a repêchés, on avait trouvé un beau drap pendu et on l'a utilisé pour se sécher. Mais entre-temps, c'est un mariage qui était complètement cassé. Tout était fichu. Voyez-vous, on peut obéir vaut mieux que le sacrifice. Obéir vaut mieux que de faire toutes sortes de petits plans pour essayer d'attirer l'accord de Dieu. Hello ? Ne soudoyons pas Dieu, ne tentons pas Dieu, restons en accord avec la parole de Dieu. Alléluia, amen. C'est tellement important cela. Restons en accord avec la parole de Dieu. Restons attachés à la parole de Dieu et ne laissons pas quoi que ce soit, quoi que soient nos pensées, venir contre tout ce que nous devons faire pour Dieu. Telle voie paraît droite à l'homme, mais elle mène à la mort. Amen. Et finalement, mieux vaut obéir à Dieu que de faire ce que les autres veulent qu'on fasse. Amen. Paul a dit, mais le peuple voulait, le peuple voulait, le peuple voulait, le peuple voulait. Savez-vous, quelquefois, dans certaines églises, on donne l'impression, et les gens veulent ça, que l'église est une démocratie. On fait comme le peuple le veut. Non, le mot démocratie n'existe pas dans l'église, dans la parole de Dieu non plus. Hello ? Le mot majorité non plus. Amen. Un jour, un homme de Dieu qui vient d'aller vers le Seigneur à l'âge de 85 ans, un homme remarquable, a dit ceci. Allez dans la parole de Dieu. À chaque fois que le peuple a pris la décision, c'était une mauvaise décision. Et c'était une grosse église, ce n'était pas une petite église, parce qu'il y en a qui disent, oui, mais dans les grosses églises, il faut qu'on soit beaucoup à décider. Chez nous, on a une sœur qui s'appelle Sylvia. Et elle dit ceci, pasteur, décide-toi. Pourquoi je dis ? Parce que chaque tête est comme un tribunal. Chacun pense ce qu'il veut. Alléluia. Vous voyez ce que je suis en train de dire, hein? Et c'était une grosse église, il y avait des milliers de personnes dans son église. Et il dit à toute l'église, à chaque fois dans la parole de Dieu, et allez voir, vous allez le voir vous-même, à chaque fois que c'est le peuple qui choisit, que c'est le peuple qui prend la décision, ou que c'est le peuple qui pousse à prendre la décision, ça a toujours été une mauvaise décision. À chaque fois. Mais pas parce que le peuple n'est pas bon, c'est pas ça. Mais parce que Dieu a institué une leadership ouinte pour diriger l'Église. Amen. Mais certes qu'on a tous de bonnes choses à dire. Mais dans mon Église, par exemple, je dis aux gens, ne me dites pas ce que vous pensez. Si vous voulez me dire quelque chose, dites-moi ce que Dieu vous dit. Parce que moi aussi, je peux penser. Mais la Bible ne dit pas que je dois être dirigé parce que je pense. La Bible dit que je dois être dirigé par l'Esprit de Dieu. Amen. Et trop souvent, on fait ce que le peuple veut pour avoir, comment on appelle ça, pour avoir le privilège du peuple, pour avoir ce que les autres veulent. À Jésus, on lui a dit, mais fais-nous un miracle. Il dit, le seul miracle que vous aurez, c'est le miracle de Jonas. Alléluia. Amen. Imaginez-vous même que Satan dit, mais change ces pierres en pain. Rappelez cela. Il dit, l'homme ne mangera pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous, mais moi, je me réjouis beaucoup de ces moments qu'on passe ensemble autour de l'obéissance. Avec tous ces exemples qui nous montrent des choses un petit peu plus concrètes, peut-être pour nous. Mais on veut vraiment apprendre à suivre l'Éternel. Amen. Une chose que j'ai appris ce soir, c'est que celui qui désobéit Dieu est fou. Est un insensé. Pouvez-vous imaginer ça? Insensé? Imaginez-vous Paul! Quand il voulait dire, Dieu dit non. Et puis là, non, et puis je vais quand même. Imaginez-vous qu'après, c'est Pierre qui rencontre Lydie. Imaginez-vous que c'est Pierre qui va en Philippines. Pardon, à Philippe, et qui rencontre Lydie, et qui rencontre une milliardaire. Et Paul se dit, ah, j'aurais dû obéir au Seigneur. Pourquoi lui, pas moi? Alors, il aurait été content pour Pierre. Mais ce n'est pas ça le fait. Le fait, c'est qu'il aurait désobéi au Seigneur. Et ça, c'était important. Amen. Parce qu'il y avait 120 personnes qui travaillaient avec lui et il devait s'occuper de ces 120 personnes. Amen. Et le frère Hudson Taylor, un jour, écrit à sa femme, il était missionnaire en Chine, il y avait 150 personnes qui travaillaient pour lui. Et il payait tout le monde à la mission. Et il envoie une petite lettre, il dit, « Chérie, il ne nous reste plus que 25 cents. » plus toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Vous savez-vous, si nous marchons dans l'obéissance, quels que soient les 25 cents qui restent, nous aurons toujours les promesses de Dieu avec nous. Amen. Parce que si j'obéis ici, j'obéirai là-bas et j'obéirai là-bas. Le frère Hagin nous a toujours dit, apprenez à suivre la voie de votre esprit. Hein? Apprenons à suivre notre conscience et ne pas transgresser notre conscience et à marcher dans l'obéissance. On marche dans l'obéissance avec la voix de Dieu, on marche dans l'obéissance dans l'église locale et on suit la direction que Dieu donne à travers nos pasteurs qui nous dirigent et qui nous aident. Et je vous assure, notre vie, elle est vouée à des bénédictions et des bénédictions et des bénédictions et des bénédictions. Un jour, quelqu'un me dit, mais Donato, si Dieu te dit d'aller quelque part et ton pasteur te dit de ne pas y aller, ton père spirituel te dit de ne pas y aller, qu'est-ce que tu fais? J'y vais pas. Je répète, si Dieu me dit d'aller quelque part, mais mon pasteur me dit non, je n'y vais pas. Amen. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Écoutez-moi, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Chaque fois que quelqu'un fait ce qu'il pense être juste, sans la direction de l'église locale, il se trompera toujours. Rappelez-vous, lorsque Dieu dit, le Saint-Esprit dit, mettez à part Paul et Barnabas pour la voie à laquelle je les ai appelés. La Bible dit qu'ils prièrent, ils jeûnèrent, et ensuite l'Église envoya Paul et Barnabas. Écoutez ça. On obéit à Dieu, mais on est soumis à l'Église locale. L'obéissance génère la puissance, la soumission génère l'onction. L'obéissance engendre la puissance, mais la soumission engendre l'onction. Amen. Voyez-vous, il y a des gens qui sont allés et il y a des gens qui sont envoyés. Moi, je suis une personne envoyée. Amen. Et que personne ne va tout seul, mais il va avec Dieu. Il va avec l'appel de Dieu. Voyez-vous, certains disent, oui, mais Dieu m'a dit que... Et je vais terminer avec cette histoire-là. Nous avions un jeune homme chez nous, belge, d'origine africaine, mais il était belge aussi, qui était marié avec une mauricienne de l'île Maurice, une gentille femme, etc. Et, tout. Et un jour, il va en vacances à l'île Maurice depuis Belgique. C'était loin, hein, c'est quand même 15 heures de vol à peu près. Et là, une chose extraordinaire se passe. Au bout d'un mois de vacances, il a amené plus de 70 personnes au Seigneur. Excellent. Et Dieu lui dit, je t'envoie en île Maurice, je veux que tu viennes missionnaire en île Maurice. Aucun problème avec ça. Qui sommes-nous pour dire non à l'appel de Dieu? Au contraire, on est toujours là et chaque pasteur est là pour encourager les personnes à entrer dans l'appel de Dieu. Mais, le frère arrive, 10 jours plus tard, on n'a pas eu le temps de se voir encore, il vient vers nous, pasteur, je dois vous parler. Il vient vers moi, il vient vers l'autre pasteur avec qui je travaille, il dit voilà, il raconte toute l'histoire. Et nous, on est émerveillés de voir tout ça. Il dit, Dieu m'a dit que je dois aller en île Maurice. Donc, j'ai abandonné mon travail et on va bientôt partir en île Maurice. Et je dis, qu'est-ce que tu as fait? Le problème, ce n'est pas que Dieu ne l'avait pas appelé. Bien sûr que Dieu l'a appelé en île Maurice. Mais il voulait partir trop tôt. Il voulait partir trop tôt. Mais Dieu n'est pas stupidum, stupita, stupitorum. Alléluia. Quand Dieu appelle, il va former ensuite. Il va aider. Alléluia. Certes qu'il a eu énormément de succès le mois qu'il était en vacances, mais ça ne veut pas dire qu'il va avoir le même succès après. Certainement pas s'il n'est pas formé. Vous savez-vous ce qui s'est passé? Il n'est jamais allé en île Maurice. Il n'est jamais parti. Il avait abandonné son travail pendant plus de 10 ans. Il n'a pas trouvé de travail fixe. Ça a été une misère pour sa famille pendant plus de 10 ans. Parce que l'obéissance apporte des bénédictions, mais la désobéissance apporte des tragédies dans la maison. Amen. Et c'était tellement plus simple pour lui de dire, pasteur, voilà ce que j'ai reçu de Dieu, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Donnez-moi, guidez-moi, aidez-moi. Amen. Plutôt que de dire, je pars comme ça. Mais tout le monde se croit pour l'apôtre Paul? Je pars. Mais l'apôtre Paul était soumis aussi? Comment soumis? Vous ne connaissez pas votre Bible, vous, hein? Mais bien sûr qu'il était soumis. L'apôtre Paul était soumis à 2 églises locales. La première à Jérusalem. Et ensuite, quand Jérusalem l'envoie à Antioche, l'apôtre Paul, jusqu'à la fin de sa vie, est soumis à l'église d'Antioche. Amen. Et quand Paul prêche l'évangile de la grâce, le vrai évangile de la grâce, pas celle à bon marché, où vous faites ce que vous voulez, de toute façon, Dieu vous a déjà pardonné. Non, ça, c'est la grâce à bon marché. La grâce qui coûte le prix, c'est la grâce qui nous dit, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'hommes. Amen. C'est cette grâce qui nous demande de servir Dieu comme un esclave. Paul, Pierre, apôtre, esclave de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi je parlais de grâce et de choses-là? Oui. Et il était soumis à Antioche, partout. Et il va jusqu'à Jérusalem pour présenter son évangile et dire, voyez-vous, l'évangile, il est bon aussi pour les païens. Et quand il a fait ça, mes amis, je suis convaincu que ce jour-là, peut-être plus que jamais dans toute sa vie, Paul a tremblé de toutes ses forces. Parce que si Jacques disait, on n'est pas d'accord, il aurait arrêté d'enseigner l'évangile. Il l'aurait arrêté. Parce que Paul était un homme soumis. Amen. Et quand on lui a dit oui, oh, qu'est-ce qu'il était content. Parce qu'il savait que ça venait de Dieu. Amen. Mais il était soumis. Il était soumis. Et nous ne devons pas croire que nous devons être des cow-boys solitaires. Il n'y a personne qui est un cow-boy solitaire. Amen. Alléluia. Nous vivons avec des personnes qui sont au-dessus de nous, que Dieu a placées dans notre vie pour aller de l'avant avec lui, et nous irons de l'avant avec lui. Amen. Alléluia. Et savez-vous quoi? Quand vous êtes certain que ça vient de Dieu, croyez-moi, ceux qui sont entre vous sauront que ça vient de Dieu. À la rigueur, ils vont faire ce que Jacques a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Jacques? Il a dit, d'accord, tu peux prêcher. Tu peux prêcher aux païens. On est tout à fait d'accord. Il a plu à l'Esprit-Saint et à nous. J'aime bien son « à nous ». Amen. Heureusement qu'il a dit ça. Il a dit, il a plu à l'Esprit-Saint et à nous. Ça veut dire, et Paul, non seulement l'Esprit-Saint a quelque chose à dire, mais nous aussi. Même ceux qui sont au-dessus de nous ont quelque chose à dire. Et dit Paul, ok, tu prêches l'évangile, mais je veux que tu fasses encore 2 choses. Que tu nourris la veuve et que tu nourris le pauvre. Amen. Alléluia. Et gloire à Dieu pour un homme comme l'apôtre Paul, qui a été un exemple pour chacun d'entre nous, que mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. J'espère que vous avez reçu quelque chose. Moi, j'ai reçu beaucoup de choses ce soir. Et que nous puissions grandir ensemble. Amen. Seigneur, nous te remercions beaucoup pour la parole de Dieu ce soir. Merci parce que tu es le Dieu de la parole. Tu es le Dieu de l'ordre et de la bienséance. Tu nous montres dans ta parole ce qui est vrai, ce qui est juste, Père. Et je pense, Père, parce que nous avons enseigné ces derniers jours déjà, que cela confirme ce que cette Église enseigne constamment et continuellement, Père. Père, nous ne cherchons pas à ce que les gens nous obéissent à nous. Nous voulons que les gens obéissent à toi, Père, mais dans l'ordre et la bienséance, avec l'autorité que tu as placée dans l'Église locale. Et Seigneur, nous respectons l'autorité pastorale dans l'Église locale, parce que là où il y a une autorité pastorale, Père, il y a le système que tu as créé de la protection spirituelle qui est la redevabilité et la soumission. Merci, Père, parce qu'alors que nous avançons avec toi et que nous faisons ce que tu nous demandes de faire et que nous écoutons ceux qui sont au-dessus de nous, nous devenons redevables et en même temps, nous devenons soumis et protégés par Jésus-Christ. Merci Père. Je bénis chaque personne ici ce soir et je te demande d'être avec eux et on se revoit demain soir dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, pasteur, s'il vous plaît.
Gloire à Dieu. Amen. Alors je dis tous à demain.